La Collective, c'est une émission hebdomadaire.
C'est à plusieurs, c'est ensemble.
C'est local.
C'est un mélange, La Collective.
C'est des interviews.
De l'actualité.
Des chroniques, des reportages.
De la musique.
C'est divers et c'est varié.
La Collective, c'est ta voix.
C'est ma voix.
C'est nos voix. C'est tout de suite et c'est maintenant sur Radio Sans Ferréole.
Eh ben, salut Naïm. On est bien heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le beau studio de Radio Saint-Ferréole sur le 94.2. On, c'est Marie-Layla.
Bonjour.
Qui aujourd'hui est à la technique, mais qui ne se privera pas si elle a envie, si elle en ressent le besoin ou quoi que ce soit, de poser aussi des questions. Et moi, c'est Sama. Et on t'invite aujourd'hui parce que tout à l'heure, tu vas faire un concert à l'Hydre au Café Associatif. Et comme on n'est pas en direct, je vais donner la date quand même. On est le samedi 20 juin 2026 et ce soir, le concert est à 20h. Donc, bienvenue à toi.
Eh ben, merci. Salut à vous deux et merci pour l'invitation.
Et donc, je voulais aussi préciser que ton nom de scène, je ne sais pas si tu dis comme ça, c'est L'Inconsolable.
Ouais.
Et qui, il y a quelques jours, vient de sortir un nouvel album qui s'appelle « Nos rêves font des forêts ». Et on en écoutera d'ailleurs des extraits tout à l'heure, on pourra en parler aussi. Mais d'abord, tout simplement, j'avais envie de te proposer de te présenter.
Ouais, carrément. Bah, écoute, donc L'Inconsolable, c'est un nom que j'ai choisi il y a assez longtemps. Je pense que j'avais 17 ans quand j'ai choisi ce nom. J'en ai 44, donc le temps a passé depuis, clairement. Et j'avais choisi ce nom-là pour différentes raisons. J'avais vu une statue qui m'avait beaucoup ému et qui s'appelait El Desconsol en Espagne. Et puis aussi, c'était, je pense, ça correspondait un peu à un état émotionnel chez moi. Avec cette idée que être inconsolable, c'est refuser en fin de compte de se consoler de ce dont il n'y a pas matière à se consoler. Donc un état du monde et des choses injustes. Et refuser de se consoler, c'est garder suffisamment de colère en soi, de rage aussi, comme moteur pour avoir l'énergie d'essayer modestement et collectivement de transformer le monde, quoi. Se consoler, c'est finalement se dire, bon bah, c'est comme ça, il y a des riches, des pauvres, c'est, voilà, le monde est tel qu'il est, j'y peux rien et on fera avec. Donc voilà, c'était une manière pour moi de se dire, veiller à ne pas me consoler, c'est garder l'énergie pour pouvoir continuer à essayer de transformer les choses. Et puis, sinon, voilà, je suis rappeur et beatmaker, donc c'est deux activités qui sont parfois disjointes dans le monde du hip-hop. On a d'un côté les MCs, rappeurs ou rappeuses qui écrivent et scandent leurs textes en général, et puis d'un autre les beatmakers qui font les instrus. Et il se trouve que ça arrive aussi et de plus en plus souvent que des MCs soient ou deviennent beatmakers et l'inverse. Et donc moi, j'ai toujours, depuis que j'ai commencé le rap, j'ai tout en même temps commencé à faire des instrus avec les modestes moyens de l'époque, un petit synthé Casio, un magnétophone Fisher-Price, voilà. Mais j'ai jamais arrêté depuis, et donc en règle générale, je fais mes prods, et c'est le cas sur tous les derniers disques.
Mmh. Wow. Et ça me fait venir une question qui peut-être est un peu simple, peut-être un peu bête, mais c'est quoi qui te fait rapper ? C'est pourquoi est-ce que tu fais ça ?
Et eh ben alors ça, pour le coup, ça m'est venu, je pense, dans la cour de récréation de l'école primaire où j'étais, à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Et j'ai entendu des camarades rapper Le Monde de Demain, qui est une chanson d'NTM, qui figurait sur leur premier album authentique, sorti en 1989-90, je crois. Et moi, je découvrais, en fait, en entendant ça, je les entendais rapper les paroles qu'ils connaissaient par cœur, et je découvrais le rap, qui était une musique que je connaissais pas. Et je pense que ça m'a tout de suite saisi, ça m'a tout de suite interpellé, et j'ai eu avec le rap un double coup de cœur, à la fois un coup de cœur, je dirais, esthétique, avec vraiment, j'ai beaucoup aimé le côté, tout le travail de partition rythmique de la voix, en fait, la manière de faire musique avec simplement des motifs rythmiques qui sont liés à l'organisation des phonèmes dans les phrases, etc., comment on fait revenir tel son, comment on agence, comment on fait rebondir les sons, etc. Et la façon dont ça produit de la musicalité, ça m'a tout de suite saisi, ça m'a tout de suite touché, quoi. Et donc je pense que ça, c'était un des deux coups de cœur que j'ai eu, un coup de cœur vraiment esthétique, musical et rythmique, avec la scansion, le flow. Et en même temps, j'ai eu aussi un coup de cœur politique, parce que j'étais jeune, mais j'étais déjà en colère. politiquement. J'étais complètement obsédé par l'idée que je voulais pas faire mon service militaire. Donc c'était une espèce d'angoisse existentielle depuis que j'étais petit. Et j'arrêtais pas de demander à mes parents comment j'allais faire pour ne pas faire mon service militaire. Et donc j'entendais des récits des uns des autres, comment est-ce qu'ils avaient ils s'étaient fait passer, enfin ils avaient fait réformer P4 ou ils étaient objecteurs de conscience, etc. Mais c'était vraiment une angoisse qui me tenait quoi quotidiennement. Mmh. C'est-à-dire je me disais il faut vraiment que je trouve une solution, mais c'est pas possible. Et puis d'autres choses. Et donc, je pense que assez jeune, j'ai prouvé une espèce de colère politique justement devant ce qui me semblait être injuste de manière générale. Et quand j'ai découvert le rap, la colère que j'ai sentie, trouvée dans cette musique, rencontrait ma propre colère qui déjà était présente. Et le côté très contestataire, cette espèce de rage qui est inhérente au rap, ça m'a en fait là du coup ça a fait vraiment tout de suite sens pour moi et ça m'a beaucoup ému et ça m'a presque instantanément donné envie d'en faire au-delà d'en écouter aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de temps entre le moment où j'ai découvert le rap et écouté du rap et le moment où je me suis mis à écrire et faire des instrus. C'est presque fait comme ça en déroulant le fil quoi.
Et du coup ça commence genre toi dans ta chambre ou dans une autre pièce de chez toi ou en scred ou dans une cave ou d'emblée tu rencontres d'autres personnes, tu fais partie avec des scènes ouvertes, des choses, ou comment est-ce que de ce moment-là et de cette rencontre-là, comment est-ce qu'il y a quelque chose qui commence?
Eh ben non, alors ça commence plutôt, c'est plutôt la première option, c'est-à-dire que j'étais plutôt très timide moi, très réservé, et donc j'ai longtemps écrit et composé dans ma chambre justement, et puis je faisais des petits enregistrements, donc d'abord avec ce fameux magnétophone Fisher-Price, et puis ensuite avec les moyens du bord, et je faisais écouter ça, après je gravais des CD un peu plus tard, ouais. Et je faisais écouter ça, je les faisais circuler dans la famille, les cousins, cousines, voilà, et à quelques amis aussi. Et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de CD et de chansons en fait qui plus tard sont jamais sorties, mais qui ont circulé dans des cercles un peu restreints et qui moi m'ont servi à faire un peu mes armes quoi, à expérimenter cette musique là et je pense que j'avais aussi besoin de me sentir prêt d'une certaine façon avant de m'exposer au public, vu que j'étais très timide, c'était pas une chose facile pour moi, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris beaucoup de temps, et là c'est toujours assez frappant de se dire aujourd'hui que des fois des jeunes gens ou moins jeunes qui se mettent à rapper par exemple, ils écrivent un truc et puis direct ils l'enregistrent, ils le mettent sur YouTube,
ouais.
Et il n'y a pas de, enfin il se passe, il y a pas de d'espèce de d'espace tampon temporel entre les deux, et en fait moi je me dis, j'ai commencé à écrire du rap et à faire des instrus, j'avais 12 ans. Et j'ai sorti mon premier album en 2011. Donc, je suis mauvais en maths, mais voilà, il s'est passé plus de 10 ans où justement tout ce que je faisais, je le gardais pour un petit cercle restreint. Et j'ai sorti un album le jour où je me suis dit, bon, bah voilà, là j'ai un espèce de propos un peu construit, je sais que je veux dire quelque chose en particulier, je me sens un petit peu aguerri aussi d'un point de vue du flow, etc. Voilà, et aussi ce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure là sur la rencontre avec le côté rageux du rap, etc. Je me souviens que mes premiers textes, donc quand j'avais 12 ans, j'avais écrit un texte, alors c'était très souvent très naïf dans la forme, mais il y avait un texte qui s'appelait Nature en danger, donc il y avait déjà une espèce de souci pour l'écologie. Il y avait un texte sur Mumia Abou-Jamal qui était dans le couloir de la mort aux États-Unis. Enfin voilà, c'était vraiment mes thèmes déjà dès le début. C'était des thèmes très sociopolitiques. Et ça a jamais changé non plus en fait. Comme c'est ça qui m'a donné envie de rapper. C'est vrai que j'en suis jamais venu à me dire je vais faire un truc léger pour raconter une soirée ou je sais pas quoi. Pour moi si je faisais du rap, c'était précisément pour répondre à ta première question parce que quelque chose, une rage m'animait, une colère m'animait que j'avais besoin de partager avec d'autres et de transmettre quoi.
Et si je me trompe pas, tu qualifies ton rap de rap d'animal humain. Et par ailleurs, moi, il me semble moi, je rappe pas du tout, mais j'écoute pas mal de rap et je trouve que c'est une forme qui est très vaste, qui est dense, qui est traversée par plein de courants, qui est très même, j'oserais le mot, d'hétérogène. Enfin, il y a vraiment des choses très très différentes. Et est-ce que toi, à l'intérieur de ça, comment est-ce que tu te situes? Est-ce que tu as un peu des familles? Est-ce que tu as un peu... Je sais que pour avoir écouté certains de tes titres, il y a des fois tu fais des featuring, des fois tu as des comparses, des fois tu as des gens avec qui tu travailles. Donc, Donc, il y a des amitiés, des choses dans le travail, mais est-ce qu'au-delà de ça, tu as, je sais pas, des compagnons de route, même lointains, avec qui peut-être tu n'as jamais travaillé, mais qui d'album en album continuent à te hanter, à t'inspirer, ou au contraire, est-ce que tu te sens un peu comme dans un désert et tu avances avec tes trucs?
Ah, là, c'est une question vaste. En fait, il y a plusieurs choses que je pourrais te répondre sur est-ce que je me sens appartenir à une certaine famille, on pourrait dire musicale, esthétique déjà. Je pourrais dire que oui, plutôt à ce qu'on appelle le boom bap dans le rap. Donc c'est ce genre de rap qui est en fait, on va dire que c'est un peu le rap originel et puis tel qu'il est arrivé en France dans les années 80-90. Boom bap, en fait, hein, ça décrit cette forme rythmique qui fait boom, bap, boom, 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 bap, c'est ça. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc moi, j'ai grandi, j'ai rencontré le rap avec ça et j'ai grandi, j'ai écouté beaucoup de ce rap-là. Un rap qui était aussi, et on pourra en reparler après quand on parlera aussi du nouvel album, mais qui était aussi, et c'est important pour moi, construit presque exclusivement, en tout cas énormément, avec du sampling. Pour ce qui est de la technique de composition. Donc voilà, ce genre de forme rythmique, du sample, et puis des morceaux plutôt à contenu, à charge sociopolitique aussi, qui, encore une fois, moi, me parlaient. C'est ce rap-là qui m'a donné envie de faire du rap, et c'est ça que j'ai écouté pendant assez longtemps. Et si je devais citer des artistes avec qui je continue de cheminer bien après qu'ils aient arrêté, par exemple, je pourrais citer, si je devais citer qu'un nom, je citerais Fab. Fab, qui est un rappeur qui a ensuite donné naissance à la Secret Connection, qui eux continuent à rapper encore aujourd'hui. L'un des membres de Secret Connection est décédé il y a peu, mais les autres sont toujours actifs. Et Fab, ouais, c'était. Il avait publié, je pense, en 1997, Détournement de son, qui était un album qui m'a beaucoup marqué. Et puis en 2000, il a sorti son dernier album, La Rage de Dire. Qui a été une espèce de grosse claque pour moi aussi. J'ai l'impression qu'il était très en avance sur son époque, notamment dans l'expérimentation musicale, esthétique, sur la manière d'enchaîner les titres, etc. Et aussi sur le propos politiquement. On peut dire d'ailleurs tant sur le propos que sur la forme et le flow. Et d'ailleurs, il avait publié quelques années auparavant un album qui s'appelait Le Fond et la Forme, donc c'est peut-être pas un hasard. Il arrivait à tenir ensemble un niveau d'exigence assez haut, je trouve. Et c'était pas si commun pour qu'on ne le remarque pas, quoi. Donc Fab, c'est clairement un de mes grands compagnons de route du rap. Et voilà. Et puis après, j'ai écouté beaucoup aussi, à une époque, La Rumeur, Kazay, qui m'a beaucoup influencé aussi, qui est une des plus grandes lyricistes du rap francophone, à mon sens. Et puis j'ai écouté aussi beaucoup beaucoup de choses, donc justement des choses très différentes. Je pense aussi que j'ai pris une grosse claque avec Eminem à l'époque où il a sorti son premier LP chez Interscope Records, là, le label de Dr. Dre, avec My Name Is, etc. Moi qui à ce moment jusque là me prenais pas la peine de traduire les paroles du rap anglophone, j'ai commencé à m'y pencher sérieusement parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, quoi. Et le flow m'a vraiment laissé sans voix. Le flow d'Eminem, c'était vraiment une grosse claque, et en plus je sentais qu'il y avait beaucoup d'autodérision, d'humour, de personnages, de théâtralité dans son rap, et j'avais envie de comprendre, quoi. Donc je me suis mis à imprimer ses textes et puis à essayer de les traduire, donc ça m'a beaucoup fait travailler mon anglais, et puis je me suis rendu compte que effectivement c'était très riche, même si c'était aussi plein de provocations, d'excès de tout genre. Voilà, donc pour le coup, c'est rempli de paroles sexistes, homophobes, enfin, il y a tout ce qu'on veut. Mais néanmoins, le fait que justement, il y ait vraiment toute cette mise à distance et puis cette théâtralisation avec des personnages, des rôles de composition dans les chansons, etc. Et beaucoup d'humour, parfois très drôle aussi, je trouve. Je pense que ça m'a vraiment fait entrer un peu plus profondément dans le rap anglophone, quoi. Et puis ça m'a beaucoup appris d'un point de vue du flow. Donc ça aussi, je pense qu'il faut que je cite au moins ce compagnon de route-là. Et après, pour finir de répondre à ta question, les gens avec qui je chemine un peu plus concrètement, que j'ai rencontré, y a Irascible, qui est un rappeur de la région parisienne, avec qui on a fait un disque ensemble qui s'appelle Capital Advisory Explicit Lyrics, qui est lui un rappeur que j'aime beaucoup, qui écrit très bien et qui est, comme moi, animé aussi par une grande colère politique, et globalement on partage la même colère sur les mêmes thèmes, donc ça c'est une rencontre qui fonctionne bien, je trouve. Et on songe à faire un deuxième disque ensemble actuellement là. Et puis sinon il y a les comparses de B12. B12 c'est un groupe de rap qui a la particularité d'être ne comprendre que des rappeurs véganes et antispécistes. On est quatre dans le groupe, quatre à rapper, deux à faire des instrus parmi les quatre, Jamel et moi. Et donc c'est composé de Scalpel, Jamel Vice, Resturner et moi-même l'Inconsolable. On a publié en 2023 un premier disque qui s'appelle Que la salade, qui est donc la base de notre alimentation. Et puis là, on a publié il y a quelques mois un single qui s'appelle Quelques graines suffisent, avec un gros clin d'œil et un gros hommage pour Arsenic, qui avait publié à l'époque Quelques gouttes suffisent. Et on prépare, ça, c'est un premier extrait d'un prochain disque qui est en préparation, quoi. Donc voilà, ça c'est clairement des camarades de route avec lesquels j'ai à la fois, on a des habitudes esthétiques dans le rap assez différentes, des timbres de voix différents, mais aussi des flows très très différents, des fois très aérés pour certains, très denses pour d'autres, et puis des manières d'aborder les choses qui sont assez différentes aussi. Mais j'aime bien justement la manière dont ces différences s'articulent et ce que ça compose comme ensemble. Et puis, par contre, on partage quand même une même préoccupation, un même militantisme, une même colère à l'égard des animaux et de la manière dont on les traite, et avec aussi cette préoccupation de s'inscrire dans une perspective intersectionnelle et justement là par exemple on a beaucoup discuté et pas mal écrit sur ce qui s'est passé avec l'hommage rendu à Brigitte Bardot dans le milieu animaliste qui nous a scandalisé, parce qu'on essaie de tenir ensemble un certain nombre de choses et ça c'est des vrais camarades de route.
Oh, merci pour cette longue réponse. Et est-ce que tu aurais envie de nous parler un peu du nouvel album du coup qui il y a quelques jours, enfin début juin, c'est ça?
Ouais, le 5 juin.
Le 5 juin.
Ouais, je peux en dire deux mots. C'est donc Nos rêves font des forêts. Le titre, c'est une citation d'un morceau qui s'appelle Contrefort, qui donne son titre à l'album éponyme, donc mon dernier album rappé qui était sorti en 2024, novembre 2024. Et donc au début du deuxième couplet, il y avait cette phrase qui disait « Nos rêves font des forêts, poussent comme fougères, ronces et groseilles ». Et j'ai juste tiré cette citation et j'en ai fait le titre de ce disque. C'est un disque qui a la particularité dans ma discographie d'être mon premier album instrumental, intégralement instrumental. Donc il n'y a pas de paroles. Et il a aussi été composé dans cette optique-là, c'est-à-dire que ce n'est pas un disque d'instru pour rapper, c'est un disque de musique instrumentale. Donc j'ai justement tiré profit d'une certaine manière du fait que la scansion, la voix du MC était absente pour remplir cet espace musical laissé libre par cette absence. Et donc amener des instruments, finalement c'est la musique qui a la parole dans ce disque, on peut dire. S'il y a des paroles, c'est la musique qui a la parole. Et puis, le deuxième couplet d'It's All I Do, par exemple, on pourrait se dire qu'il est scandé par un saxophone. Il y a des chœurs qui sont des échantillons samplés aussi de différents morceaux qui viennent à des endroits, etc. Mais c'est à travers cette musique instrumentale que j'avais envie de m'exprimer. Et c'est marrant parce que, comme je disais, je fais des instrus depuis le début, depuis très très longtemps. Et j'adore la musique instrumentale moi-même, j'en écoute, mais je sais pas pourquoi je m'étais jamais dit que j'allais faire ou que je pourrais faire un album instrumental. Et après la parution de Contrefort, j'ai éprouvé le besoin de composer et de me taire un peu aussi sur le plan du rap, quoi. Je me suis dit que j'avais pas tout de suite envie de réécrire et de rapper, mais par contre j'avais des choses à dire, donc c'est passé à travers une autre forme musicale. Et ça, c'était vraiment assez réjouissant pour moi d'explorer une nouvelle voie de composition musicale et puis aussi de revenir à un de mes grands amours qui est le sampling. Et pour le dire en deux mots, pour les auditoristes qui ne connaîtraient pas, du coup, c'est une technique de composition musicale qui consiste à aller prélever des échantillons sonores dans un enregistrement préexistant. Dans un enregistrement, ou d'ailleurs ça peut être aussi sampler un chant d'oiseau dehors, enfin ça, n'importe quel son, mais en tout cas prélever des sons et ensuite en faire la matière première depuis laquelle on va composer son œuvre propre. Et donc, ça suppose, quand on va prélever des sons dans des enregistrements qui préexistent, des chansons par exemple, d'aller découper, parfois de les réagencer, de les intervertir, de les mettre en boucle, de les pitcher ou de dépitcher, c'est-à-dire de rendre la tonalité plus aiguë ou plus grave, de les ralentir ou de les accélérer, de leur appliquer des filtres. Donc, il y a tout un travail en fait de confection, un travail vraiment sonore à partir de deux ou des échantillons qui ensuite permettent de construire autour une ligne de basse, une ligne de batterie, etc. et puis d'en faire une instru de rap, quoi. Et moi, ça, c'est un truc que j'adore parce que ça permet d'abord d'explorer des musiques très, très diverses. Donc comme je fais des instrus et comme je sample, j'écoute énormément de choses. Et là, typiquement dans ce disque, on se retrouve avec des samples issus de, je sais pas, de chants traditionnels qui ont été enregistrés par des ethnomusicologues dans les années 30, des morceaux de soul des 70s, un morceau de jazz, vraiment toutes sortes de choses qui sont d'époque et de géographie très différentes. Et je trouve ça assez beau, en fait, l'idée que ces fragments sonores, justement issus d'époques et de géographies différentes, puissent se rencontrer et s'articuler ensemble dans une même composition. Et parfois, ça produit des choses assez heureuses, quoi. Donc, c'est ça. Et donc, ça, c'est une manière particulière de sampler que j'ai beaucoup utilisée dans cet album. En fait, d'ailleurs, que j'ai utilisé sur tous les morceaux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qu'on peut faire souvent dans le rap, c'est-à-dire sampler un morceau, se dire, tiens, tel morceau de Nina Simone, il est super beau, je vais prendre telle petite boucle de piano de l'intro, je la mets en boucle, je construis un drum beat dessus, une ligne de basse, quelques variations sur la partie refrain, et puis je rappe dessus. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire souvent déjà, c'est prélever plusieurs samples sur un même morceau. Mais là, ce que j'avais un peu fait aussi sur Contrefort et que j'ai vraiment systématisé sur cet album-là, c'est de prendre le parti d'emblée d'aller chercher des sources volontairement très hétérogènes et très nombreuses. Donc, sur chaque morceau, il y a au moins 8 morceaux différents qui ont été samplés, dont sont issus, pour chaque morceau, plusieurs samples, ce qui fait qu'il y a peut-être, au moins 30, 40 ou plus échantillons sonores différents sur chaque morceau et qui composent l'ensemble, quoi. Et donc, là, ça devient assez intéressant. C'est une espèce de défi musical parce qu'on se retrouve avec justement des matières très hétérogènes qui ont des fois qui sont un peu des... C'est un très bien enregistrement, donc c'est un peu désaccordé. C'est pas tout à fait sur une note ni sur l'autre. Donc, il faut trouver comment on peut le repitcher, articuler ça à un truc qui est d'une autre époque. Et puis, des fois, de voir que des chœurs d'un morceau de soul des 70s rencontrent parfaitement un chant traditionnel chinois d'une toute autre époque, etc. Et que ça, en fait, qu'on a l'impression que c'était fait, en fait, pour s'articuler ensemble, c'est assez émouvant, je trouve. Donc, donc voilà, là, c'est vraiment cette technique-là que j'ai utilisée pour composer.
Waouh, ça donne envie d'écouter le premier que tu as choisi, qui est It's All I Do. Mm-hmm. Ça le fait ?
Allez.
Oh man, I got a million dreams. It's all I do is dream all the time.
I thought you played piano.
No, this is not piano. This is dreaming.
All the time.
On est toujours sur Radio Saint-Ferréol, le 94.2. On est avec l'Inconsolable. Et donc, on vient d'écouter It's All I Do, de ton nouvel album, Nos rêves font des forêts. Et j'avais envie de te poser la question de comment est-ce que ça commence. Donc, tu disais qu'une fois n'est pas coutume, c'est un album uniquement
instrumental.
Merci. Comment est-ce que ça commence? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est une track qui est composée et du coup tu te dis ah en fait j'ai envie de continuer, ou est-ce que c'est comme tu le disais tout à l'heure hors micro, ben en fait j'ai des choses dans mes tiroirs, des choses dans mes disques durs et d'un coup hop je vais en chercher et puis je construis quelque chose. C'est quoi le point de départ un peu qui fait que l'album il se fabrique et il sort maintenant?
Je pense qu'il y a toujours un peu des rencontres, des hasards de la vie, des rencontres aussi qui nous emmènent sur un chemin, quoi. Et à ce moment-là, donc, comme je le disais, j'avais sorti Contrefort, qui est un album qui me tient particulièrement à cœur. Peut-être en partie parce qu'il a été... C'est le premier disque que j'ai écrit depuis que je me suis installé sur les Contreforts Ouest du Vercors, dans le Royan. Et donc, ce que ça a engendré, ça, c'est que les paysages que j'habite désormais, les forêts, les montagnes, et puis les êtres qui les peuplent, humains et non-humains, ont largement nourri et influencé, façonné ce disque et puis son écriture. Donc, c'est un album qui me tenait vraiment à cœur. Et j'avais envie, je pense, de lui laisser un peu le temps de circuler avant de repartir tout de suite sur l'écriture d'un nouveau disque, sur autre chose. C'est comme si j'avais envie de me taire un temps pour que ça puisse circuler et puis pouvoir, moi, entrer en discussion autour de ces chansons-là, avec ceux et celles qui les recevraient. Et j'ai assez rapidement éprouvé, par contre, le besoin de composer. Donc, je me suis mis à composer sans trop savoir pourquoi à l'origine. Et ça aurait très bien pu être pour faire des instrus pour plus tard, en fait, puisque c'est ce que je fais en général. Et puis, je sais pas, un certain stade, peut-être effectivement sur un premier morceau, j'ai commencé à entrevoir la possibilité de pouvoir faire un morceau instrumental. Et puis ça a suscité un désir assez fort chez moi. Et j'ai réexploré mes disques durs, justement, à la recherche de débauches qui pourraient travailler dans ce sens-là. J'en ai trouvé. C'est le cas, par exemple, de Boucle d'Infini, le premier morceau du disque. C'était une instru que j'avais composée il y a longtemps, plutôt pour rapper dessus. Et donc, elle était très basique. C'était une boucle qui tournait d'un bout à l'autre. Mais là, en la réécoutant, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça pour l'emmener aussi dans d'autres directions et puis la faire évoluer au fil du morceau, etc. Et j'ai eu envie de travailler là-dessus. Et puis, ce que je disais aussi quand je disais que parfois il y a des rencontres, c'est que, par exemple, je pense très clairement que le morceau qu'on vient d'écouter, It's All I Do, il est dû à plusieurs rencontres. Il est dû à ma rencontre avec Métis, ma compagne, qui m'a fait découvrir au moment où j'étais justement en train de... Donc, j'avais sorti Contrefort et puis je réfléchissais à ce que j'allais faire et je commençais à composer. Et elle m'a parlé d'un album qui s'appelle Money Jungle, un album de Duke Ellington, Max Roach et Charles Mingus, donc Duke Ellington pianiste, Max Roach batteur et Charles Mingus contrebassiste, qui avaient enregistré ensemble cet album Money Jungle à l'époque. Et que moi, il se trouve que je les connaissais tous les trois, je connaissais des morceaux des trois, mais je connaissais pas du tout l'entièreté de leur discographie et je connaissais pas ce disque-là. Et je sais plus pourquoi ça lui est revenu. Si, je sais pourquoi, c'est parce qu'on a vu un film, et ça c'est la deuxième rencontre, on a vu un film qui s'appelle Soundtrack to a Coup d'État. Très beau documentaire qui mêle justement une histoire musicale et politique. Et donc dans ce documentaire, on voit Duke Ellington notamment dire les mots qu'on entend au début du morceau, c'est-à-dire qui sont moi qui je trouve absolument sublimes. Il est en train de se faire interviewer et il dit c'est tout ce que je fais, c'est rêver. Et la personne qui l'interviewe lui dit je pensais que tu jouais du piano. Il dit non, c'est pas du piano, ça c'est des rêveries. Puis il se met à jouer en même temps. Et donc cet extrait du film-là nous a beaucoup émus avec Métis. Et puis on entend aussi le morceau que j'ai samplé qui s'appelle Fleurette africaine, qu'il avait joué lui en solo et qui là existe aussi en version trio avec Mingus et Roach sur l'album Money Jungle. Et je sais pas, en fait, ce documentaire et la musique qu'il traverse m'a donné envie de revenir à l'écoute de ces artistes-là. Et je me suis mis, donc j'ai découvert l'album dont Métis me parlait, et puis j'ai aussi écouté d'autres disques de l'époque. Et quand j'ai entendu ce morceau, la Fleurette africaine, dans sa version en trio, j'ai trouvé ça magnifique, et je l'ai samplé, et j'en ai fait la base de ce morceau-là. Et puis, par exemple, la voix qu'on entend venir à partir du deuxième couplet, et à la toute fin aussi, là, ces espèces de notes chantées... C'est la voix de Abby Lincoln, qui est une chanteuse de jazz qui était allée jouer avec Max Roach justement pour perturber une séance au Parlement états-unien, et qu'on voit, c'est un extrait qu'on voit dans le film aussi, pour lutter pour les droits civiques des Africains-Américains. Et du coup, elle, c'est pareil, en fait, ces notes-là, on les entend dans le film. On entend sa voix et j'étais très ému, très touché par son timbre de voix, sa façon de chanter, je trouvais ça magnifique. Et donc j'ai été chercher ces notes-là dans la bande-son du film, et puis je les ai réincluses dans l'enregistrement, des fois en ajustant pour que ce soit vraiment sur la même note que la base. Et après, de là, j'ai été chercher plein d'autres choses. Le saxophone qui est joué sur le deuxième couplet, c'est encore tout autre chose. Voilà, donc après, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, c'était cette volonté d'aller chercher justement des sources très hétérogènes. Mais ce qui a fait naître peut-être un des premiers morceaux du disque, c'est cette rencontre avec cet album Money Jungle à travers ma compagne, et puis le fait qu'elle m'en parle. Mmh. Et puis, ce qui a fait qu'elle m'en a parlé, c'est cette rencontre avec ce film, qui est un très beau film dont je recommande le visionnage.
Et alors ça fait un point avec la question que je voulais te poser. Tu as un peu répondu en fait dans beaucoup de tes questions, mais voilà, je vais proposer de creuser un peu, puis si c'est relou, si voilà, on passera à autre chose. Mais je voulais rappeler aussi que les auditeuristes de Radio Saint-Ferréol te connaissent peut-être entre autres parce que tu as participé à la nuit Décolonisons les ondes, qui d'ailleurs est en podcast disponible sur le site de RSF, avec même des bonus qui sont hyper intéressants, des bonus musicaux notamment. Tu nous avais envoyé des sons, et tu nous avais envoyé un extrait où tu lisais un extrait de Sagesse d'Eliane de Denethem Tuambona, et en lien avec un morceau Underground Railroad qui, si je me souviens bien, était écrit et composé un peu en écho
à cette lecture, ouais.
À cette lecture, oui. Et je sais que par ailleurs aussi avec Scalpel vous avez écrit et composé un titre qui s'appelle Palestine Support ou Support Palestine.
Support Palestine, ouais, c'est ça. Ouais.
Ou Support,
ouais.
C'est peut-être en français Support Palestine.
Non, ça marche dans les deux.
Okay. Ouais. Et du coup, ma question, c'est un peu, mais tu en as parlé pas mal avec avec la rage, la colère et politique, mais ça me donnait envie de questionner aussi ton rapport à l'histoire, ou plutôt aux histoires, puisqu'il y a l'histoire des vainqueurs toujours, et puis il y a toutes les autres histoires qui sont infiniment plus denses et plus complexes et plus porteuses d'espoir, mais à la fois à ça, et puis aussi aux luttes, à la fois les luttes de libération, mais aussi autour de toi. Parce que, et puis on y reviendra un peu après, tu t'inscris aussi dans un endroit, tu en as parlé là avec Contrefort, dans une vallée, dans un endroit à la fois de paysage, mais aussi une géographie, et du coup les luttes sociales aussi. Voilà, c'est une assez vaste question à laquelle tu as répondu déjà par bribes, mais si ça te dit de creuser un peu ça avec nous, c'est avec plaisir.
Ouais, bien sûr. Oui, en effet, Underground Railroad, c'était un morceau que j'avais écrit en écho à la lecture de Sagesse d'Eliane. Et à une partie en particulier du livre, celle que j'avais lue donc, dans le cadre de cette émission, qui avait été diffusée sur RSF, et qui raconte l'histoire de ce réseau de chemins de fer souterrains et, en l'occurrence, imaginaires, qui a permis à des centaines de milliers d'esclaves de fuir l'esclavage et de passer au nord des États-Unis. Et en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que les codes, les itinéraires étaient chantés dans des gospels, des work songs, etc. Et c'était à travers les gospels, en fait, que par des indications codées, donc soit dans le registre biblique, soit et beaucoup dans aussi le registre ferroviaire. Il y avait toute une terminologie avec les chefs de gare, etc., le fret, etc. Donc chaque terme avait une signification qui permettait que les esclavagistes ne comprennent pas ce qui était dit là, mais en revanche que les esclaves et leurs complices qui les aidaient à fuir puissent comprendre et puissent organiser leur fuite. Et il y a d'ailleurs une grande dame de cette histoire-là qui s'appelle Harriet Tubman qui avait largement participé à faire s'enfuir, qui était revenue, qui s'était elle-même enfuie, qui était revenue aider à d'autres esclaves à s'enfuir et qui avait beaucoup participé à cette Underground Railroad. Et donc moi je trouvais cette histoire assez belle parce que je trouvais que c'était un des cas historiques où on voit que la musique, en plus de d'une certaine manière de soutenir les luttes en donnant de la force aux dominés pour qu'ils et elles puissent continuer à lutter pour et ben là c'était carrément c'était à travers la musique que en fait les itinéraires de fuite se dessinaient quoi et que la possibilité d'échapper à l'esclavage se dessinait et donc je trouve ça c'était une des premières fois en tout cas où j'étais confronté à ça et je me disais ah, c'est intéressant et bon en fait ce qu'on voit aussi dans ce livre Sagesse des Lianes c'est l'inventivité des dominés à travers l'histoire pour échapper à la domination et pas toujours dans une confrontation violente ou virile, etc. Mais parfois aussi par le contournement, la fuite, le fait de se fondre dans le paysage, etc. C'est pour ça qu'il utilise beaucoup la métaphore de la liane. Je trouvais ça assez beau. Enfin, je trouvais que c'était très inspirant, ça ouvrait beaucoup de perspectives politique et effectivement c'est ça fait partie des textes qui moi m'emmène en tout cas rencontre ma colère propre et puis m'inspire aussi des idées. Je pense à un autre texte là, celui de Kaoutar Archi qui elle aussi raconte dans Ainsi l'animal et nous. Je sais pas si tu as eu l'occasion de lire ce texte. Ouais.
Pas encore. Je vois la couverture, mais j'ai pas encore lu. Ouais.
Ok. Et c'est un très beau texte qui justement tient ensemble pas mal de formes de domination. Donc en l'occurrence spéciste, raciste, ségrégation sociale, etc. Et elle part d'une histoire en fait d'un fait divers survenu pendant son enfance, un de ses camarades mordu par un chien qui se trouve être un chien policier dans la cité où elle était en train de jouer dans une piscine à l'extérieur un été quoi. Et donc de là, elle tire un peu tous ces fils là. Qu'est-ce qu'il est devenu de ce chien? Pourquoi ce chien il a été utilisé malgré lui comme outil de domination par la police? Voilà. Et puis qu'est-ce qui est devenu de cette famille et de ce petit garçon qui ont disparu de la cité ensuite? Et ce texte est très beau parce que il met face aux formes de domination et à la violence qu'elles exercent sur les dominés dans toutes ces différentes formes, mais aussi à l'inventivité. C'est ça qui est assez libérateur, je trouve. Aussi à l'inventivité dont font preuve elle parle pas mal de femmes qui se sont révoltées contre leurs conditions et parfois d'ailleurs qui ont aussi bien avant que ce soit on va dire un petit peu plus socialement accepté pris le parti des animaux en voyant là ce qui arrivait aux animaux c'était aussi très proche de ce qui leur arrivait enfin dans la manière dont elles étaient considérées quoi et donc ces ponts ces parallèles et puis l'inventivité vraiment très très profonde, très surprenante, foisonnante des dominés. Je trouve ça assez assez frappant et assez inspirant quoi. Donc c'est des textes qui il y a clairement des textes qui viennent rencontrer des expériences, des discussions et qui cheminent en moi et qui m'emmènent qui m'emmène à composer, mais je pense que j'ai répondu qu'à une partie de ta question, j'ai oublié le reste du coup en parlant de sagesse d'Eliane, je suis désolé.
Bah, t'as quand même déjà pas mal répondu, mais c'était aussi sur le plan aussi des luttes, à la fois comme on parlait d'histoire, mais aussi là je rebondissais sur le titre par rapport à la Palestine, et sur les luttes, mais aussi l'actualité, que ça soit des luttes de libération qui sont en cours dans le monde, et que ça soit aussi pourquoi pas des luttes sociales qui sont plus proches de là où tu vis et de ton quotidien.
Ouais, bah c'est sûr que là, le fait d'être arrivé dans le Vercors, ça a fait que moi qui ai vécu pas mal d'années à Paris et qui était très impliqué dans des luttes là où j'étais, quoi, donc à Paris et sous leur forme parisienne, ça m'a beaucoup changé d'arriver dans le Royan, là où je suis. Et c'est intéressant, justement, parce que c'est aussi une autre manière de lutter, une autre manière de s'organiser, de se rencontrer. Il me semble, mais là c'est vraiment juste un ressenti, mais que dans les luttes auxquelles j'ai participé et je participe ici, qu'il y a un petit peu moins de... Il y a peut-être un peu plus de joie, un peu moins de d'éreintement militant, quoi, de fatigue militante, d'amertume. Je pense que c'est aussi lié au paysage et à la violence de la répression en ville, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, là, quand on a fait les réunions des soulèvements de la terre ou autres ici, on n'est pas encerclé par je ne sais pas combien de gendarmes qui viennent nous taper dessus, nous balancer des gaz lacrymo et tout. Et donc moi, c'est vrai que les dernières manifs parisiennes, c'était très anxiogène. Aller dans une manif, c'était se dire je risque de rentrer mutilé, avec un œil en moins, ou on ne sait pas comment, dans quel état on va rentrer, quoi qu'on fasse. Donc ça faisait plutôt du bien de pouvoir en fait envisager des luttes sans avoir cette espèce d'angoisse de se dire mon intégrité physique est menacée en permanence. Et puis aussi une manière un peu plus un peu plus chaleureuse, peut-être un peu plus joyeuse d'aborder la lutte. Mais moi, enfin en tout cas pour moi, c'est sûr que le fait d'être au contact de la forêt, au contact de la montagne, d'avoir cette espèce de ces endroits où aller marcher, où aller rencontrer d'autres vivants, etc. Ça, c'est un peu cliché de dire ça, mais ça m'apaise beaucoup par rapport à la vie parisienne et à la densité de population, au klaxon, à la nervosité des gens entassés dans les transports en commun. Je pense que ça joue aussi sur un peu la manière de percevoir le ressenti un peu des luttes, quoi. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée de m'inscrire dans les luttes locales là où je suis, parce que puisque c'est l'endroit que j'habite, ça fait sens de lutter là, quoi. Mais évidemment de me tenir aussi informé et puis d'essayer de me tenir proche autant que faire se peut des luttes qui me semblent fondamentales, même si elles sont géographiquement lointaines comme la Palestine. En plus c'est une lutte qu'on connaît depuis qu'on est né, quoi. Ça ne nous a jamais quittés, si ce n'est que les choses se poursuivent, se dégradent. Mais donc effectivement, j'essaie de tenir un peu ces deux bouts ensemble. Ouais.
Et ça fait plusieurs fois que tu parles, là encore dans ta réponse, et puis dans le petit texte que tu m'as transmis un peu pour te présenter... dans les mails et tout ça, pour faire un petit peu la com pour le concert, où tu parles de comment est-ce que le fait de vivre là où tu vis, ça a façonné des choses. Et là, tu en as parlé aussi pour Contrefort, là tu viens encore d'en reparler. Est-ce que ça se joue à l'endroit de... Effectivement, le changement entre le côté très urbain et se déplacer dans un endroit plus campagnard, plus rural, on dirait aujourd'hui. Est-ce que ça se joue à cet endroit-là d'apaisement, ou est-ce que c'est aussi un autre endroit ? Moi, en lisant le petit texte que tu m'as envoyé, j'ai cru comprendre que c'était vraiment un moteur aussi dans ton écriture.
Ouais, ça l'est. Non, je pense que c'est aussi le fait justement de se dire... c'est pas juste que j'habite un nouveau paysage, c'est que ces paysages, ces forêts, ces montagnes m'habitent aussi, en fait, elles me traversent aussi et donc elles me transforment. Et ça, pour le coup, j'en ai fait l'expérience assez nette et sans l'avoir du tout prémédité quand je me suis mis à écrire l'album Contrefort. Parce que, comme souvent, j'éprouvais le besoin d'écrire, donc j'ai composé des instrus, je me suis mis à écrire et j'ai senti sans avoir décidé quelque chose délibérément en avance, quoi, que bah, quelque chose dans mon écriture et dans ma façon d'envisager les choses, de les dire, de les aborder, même dans la musique de cet album, était différent. Il y avait une espèce de petite bifurcation musicale, textuelle. Et je me suis dit, c'est drôle, parce que je reconnais là, en fait, je reconnais là les choses dont je sens ou pressens intuitivement qu'elle me touche et qu'elle me traverse ici, quoi. Justement, c'est toutes ces marches en forêt, une rencontre avec un chevreuil, je sais pas, les émotions qu'on peut ressentir quand on est en train de redescendre de la montagne et qu'on se pose sur un rocher, qu'on regarde le coucher du soleil et qu'on entend juste les oiseaux, qu'on est le seul humain ou la seule humaine là où on est. Donc je sais pas, j'aurais pas pu le formuler tel quel, mais quand je me suis mis à écrire, j'ai bien reconnu là ce qui en moi était en train d'être changé par le fait d'habiter un endroit nouveau. Et aussi des rencontres, pas que non humaines, mais aussi humaines, avec des gens, en fait, là où je suis, quoi. Mais voilà, je sentais un peu tout ça surgir dans ma musique, alors que je ne l'avais pas décidé intentionnellement, et je trouvais ça assez beau, quoi. Là aussi, justement parce que je ne l'avais pas décidé, que je ne m'étais pas dit, bon, bah, maintenant que je suis à la campagne, je vais écrire du rap de campagnard. Donc, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais par contre, de se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qui m'arrive, en fait? Quelque chose. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est que c'est un changement subtil. C'est pas du tout au tout, voilà. Mais parce que, par exemple, la chasse, le thème de la chasse, des animaux chassés, c'était un thème qui était déjà présent dans ma musique quand j'étais à Paris et qui me touchait déjà beaucoup, et j'étais déjà très en colère à ce sujet. Donc c'est pas né avec le fait que je sois arrivé ici. Par contre, ce que ça a changé, c'est que là où à Paris je faisais des rencontres assez rares avec des chasseurs, ça m'est arrivé néanmoins quand je faisais du parcours en forêt de Fontainebleau, mais c'était rare. Ici c'est souvent, en fait. C'est soit des rencontres auditives parce que j'entends les coups de feu, soit on les croise sur les chemins, et on voit leur 4x4 et puis on entend les chiens aboyer en cage, etc. On retrouve des chiens perdus avec des colliers GPS affamés, enfin bon. Donc il y a tout ça, et en fait le fait d'être en prise avec cette pratique et puis l'univers qu'elle génère, ça me touche autrement, en fait. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus sur un mode intellectuel, et là, c'est très sensible. Là, c'est... pour le coup, moi, c'est ce que je peux dire à ce sujet, c'est que ça n'a pas du tout calmé ma colère. Ça l'a grandi, au contraire. Mais c'est juste que, bah, du coup, comme je suis là et qu'ils sont là aussi, on habite le même territoire, j'essaye de voir ce que je peux faire de cette colère et comment je peux essayer de lutter à ce sujet, en sachant que je peux pas entrer en guerre avec ces gens qui sont mes voisins ou le boulanger ou je sais pas, enfin, donc voilà, ça c'est une vaste question pour le coup, comment lutter sur ces choses là là où on est, quoi. Et voilà, on est plusieurs à se la poser dans B12, je sais que Scalpel, qui est aussi Amel, dans le sud-ouest à côté de Sainte-Sonine, où il y a eu le village de l'eau et puis les luttes qu'on sait. Et voilà, il est entouré d'agriculture intensive, aussi on est dans des, parfois nous c'est pas vraiment, je pourrais pas dire que c'est un bastion RN, quoi, mais enfin en tout cas il y a quand même des votes assez forts à l'extrême droite là où on est, donc c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait de ça au quotidien, quoi, sachant qu'on côtoie ces gens, qu'on les croise, etc. Comment est-ce que, et là aussi c'est intéressant parce que je pense qu'à Paris, enfin c'est des discussions qui ont beaucoup surgi dans les collectifs, les groupes de lutte dont on fait partie ici. À Paris, on peut se construire dans une opposition franche et frontale, sans avoir besoin de nuances, et en fait en se disant voilà mon ennemi, voilà l'ennemi politique, et ce contre quoi je lutte, c'est ça. Je l'ai identifié et je veux dire, il n'y a pas besoin de nuance ou de pitié à son égard. C'est comme ça, quoi. Et de fait, on peut faire ça parce qu'en fait, on le croise peu. En fait, il est anonymisé par la densité de population des villes, quoi. Donc, ici, c'est pas comme ça, en fait. Ici, on le croise tous les jours, l'ennemi politique, entre guillemets, quoi. Le chasseur ou l'éleveur intensif ou le type qui est raciste et qui veut pas inviter l'élève noir. Là, je pense à ça parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, à l'anniversaire de sa fille, etc. En fait, c'est des gens qu'on croise tous les jours dans une toute petite ville. Et du coup, on ne peut pas exactement construire la lutte et puis transformer notre colère de la même façon, quoi. Mais je sais que c'est quelque chose que les gens qui habitaient ici depuis plus longtemps nous renvoyait pas mal. Sur, par exemple, sur le fait de s'afficher antifasciste, tu vois. Quand nous, on disait, au moment des élections législatives, on a fait des rassemblements antifascistes sur la place de Saint-Jean. Il y a des gens, des camarades, qui étaient en fait, qui avaient les mêmes convictions politiques que nous, mais que ça choquait d'utiliser le terme antifasciste, parce qu'il et elle disaient, ça va faire super peur, antifasciste, c'est hyper connoté et tout, plutôt rassemblement contre l'extrême droite, c'est quand même. Et en fait, là, on sentait justement ce que ça fait que de croiser tous les jours les gens, les gens qui partagent ou qui portent des idées qu'on critique, quoi. Bon.
Ouais. Et ça me fait venir peut-être une dernière question. Je vois que le temps a bien galopé, puis on pourra se quitter en écoutant. Le deuxième morceau, donc, qui s'appelle « Nos rêves font des forêts », qui est, si je ne me trompe pas, le morceau 3 de l'album.
Exact.
Et justement, on a un peu commencé sur cette colère, et pour terminer sur cette colère, parce que tu en parles aussi beaucoup dans cette dernière réponse, là, on est dans une séquence politique qui est vraiment bien dure, où on sent que le racisme, l'islamophobie, les LGBT-phobies, mais aussi sur le plan de l'écologie, il y a beaucoup de choses, non pas forcément qui se durcissent, mais qui se décomplexent, aussi bien au sommet de l'État que dans les médias, que les choses, elles sont plus OK, c'est comme ça, c'est OK. J'ai la sensation, en tout cas. Et beaucoup, notamment... En tout cas, d'une façon très claire dans les endroits ruraux. Mais sans doute pas que. Moi, j'habite pas les villes, donc je n'ai pas cette expérience dans les villes. Et comment est-ce qu'à l'intérieur de ça, où il y aura plein de raisons d'avoir peur, plein de raisons de baisser les bras, mais aussi d'innombrables raisons de continuer avec l'ardeur des nerfs, la lumière du cœur, tout ce qu'on veut. Comment est-ce qu'à l'intérieur de ça, comment est-ce que toi, tu prends soin de ta colère et de ta rage à l'intérieur de cette séquence politique-là?
Comment j'en prends soin?
Pour continuer à ce qu'elle, comme tu disais au début, d'être inconsolable, quoi, de continuer à ce qu'elle.
Elle me porte.
À ce qu'elle te porte, à ce qu'elle te.
À ce qu'elle me mette en mouvement, pour le coup, j'ai pas de mal à en prendre soin au sens où, effectivement, tout ce que je lis quotidiennement et ce que j'apprends sur tout ce qui se passe dans les différents domaines que tu évoquais suscite ma colère. Alors après, c'est vrai qu'il pourrait y avoir un effet de banalisation du fait qu'en fait il y a une telle accumulation d'un discours relativement décomplexé raciste LGBTophobe tu vois enfin vraiment sur tout spéciste etc enfin vraiment sur toutes les questions et donc il pourrait y avoir cette espèce d'effet de. En fait, c'est normal de lire tous les jours des dingueries, quoi. Tu vois, notamment, je pense à Donald Trump, par exemple, qui normalise aussi une forme de folie politique, tu vois, où tous les jours, tu vas lire des trucs qui n'ont aucun sens, qui sont complètement délirants. Mais en fait, on sait que c'est normal, puisque c'est sa façon de faire de la politique et de faire de la communication politique, en tout cas. Et c'est vrai que dans cette ère-là, je pense pas juste sous son influence, mais il se trouve que c'est des agencements, quoi, des agencements politiques ou géopolitiques. Ça se décomplexe à plein d'endroits et ça prend un peu ça prend de l'ampleur. Donc il pourrait y avoir ça, je pense que des fois peut-être comme d'autres, peut-être ça produit ça chez moi en fait, une espèce d'épuisement de la colère, tu vois, devant un espèce de raz-de-marée fasciste, quoi, globalement, sur tous les sujets, quoi. Je pense que il y a d'autres moments où je ressens cette colère bien bien vivace en moi encore et je sais que cette colère elle continue de me mettre en mouvement. Ce qui est moins facile pour moi que de prendre soin de ma colère, c'est de savoir quoi en faire parfois. Mais c'est ce dont je parlais un petit peu avant, c'est-à-dire que justement dans les discussions qu'on avait pour revenir à ce que je disais juste avant avec certaines camarades ici, moi je sais que des fois je me disais mais en fait moi j'ai pas envie de faire monde avec ces gens-là, tu vois. Quand on, par exemple au moment des élections législatives, typiquement on avait beaucoup ces discussions sur qu'est-ce qui motive le vote Rassemblement National et donc là on avait des grands débats parce qu'il y en a pas mal qui disaient en fait c'est parce que c'est des difficultés socio-économiques, les gens se trompent, quoi. En fait, ils se trompent d'ennemis. En vérité, ils ne sont pas fondamentalement racistes, mais c'est juste qu'ils sont dans la merde. Ils voient que les politiques se foutent de leur gueule depuis longtemps. Et donc, ils se disent, ah, tiens, on va essayer le truc anti-système. Mais en fait, moi, ça, j'y crois pas trop, en vrai. Et je trouve que Félicien Faury, par exemple, il a bien montré, justement, avec d'autres, que en enquêtant assez longtemps auprès de personnes qui votent ou ont voté Rassemblement National, qu'en fait, la motivation première, c'est le racisme. C'est quand même ça qui construit ce vote-là. Et je dis pas que du coup, c'est le cas de tous les gens qui votent Rassemblement National, mais je dis juste que c'est un élément fondateur, tu vois, sociologiquement. Et donc, on avait ces discussions un peu, de ces débats, parce que moi, je me disais, mais en fait, il faut regarder les choses en face. Les gens sont racistes, en fait. Ils sont racistes, ils sont homophobes, ils sont sexistes, etc. Et ils sont contents de trouver dans ce... Parce qu'ils savent bien que ce parti-là, même quand il essaye de lisser son image, c'est ça qu'ils portent. C'est ça qu'ils vont chercher là. C'est pas juste le fait d'avoir un peu plus d'argent à la fin du mois, quoi. Et là, on avait des désaccords, parce que je pense que justement, des gens qui habitaient là depuis plus longtemps n'arrivaient pas à se dire... C'est possible que ces gens que je croise tous les jours à la boulangerie, qui me sourient, qui sont plutôt avenants, en tout cas dans la vie quotidienne, même si ce n'est pas des amis, des gens que je fréquente plus que ça, j'arrive pas à me dire au fond de moi qu'ils sont fondamentalement racistes, quoi. Ils ont des convictions racistes, etc. Et donc, bah, je sais pas, nous, on était quelques-uns, en tout cas, à venir plutôt des villes et à se dire, ben si, en fait, c'est. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose en moi, justement, tu vois, sur... là, je reviens sur d'autres choses, mais sur la chasse. Ou sur l'élevage, où je me dis, franchement, des gens dont le loisir, c'est de prendre des fusils et d'aller tirer sur des animaux, c'est ça leur occupation, leur passe-temps, j'ai pas envie de faire monde avec ces gens-là, en fait. J'ai pas envie de trouver comment on peut s'entendre, j'ai pas envie de m'entendre avec eux, en fait. J'ai envie qu'ils arrêtent de faire ça, c'est tout. Et donc, c'est là où je me dis, c'est pas facile de savoir quoi faire de ma colère, parce qu'en vrai, ils sont là. Je ne sais pas dans quelle proportion, comme je ne suis pas sociologue, ils sont majoritaires. Mais je me sens pas, j'ai pas l'impression que nous sommes fondamentalement majoritaires, nous. Et après, je ne sais jamais quoi penser non plus de... C'est, ça aussi, c'est une espèce de discussion sans fin militante. Mais je me souviens d'Alain Damasio, avec qui j'ai eu l'occasion de pas mal discuter, et qui me répétait à l'envi à une époque que pour lui, cette espèce de backlash qu'on voit là, en fait... Alors, il disait ça il y a quelques années, je me demande s'il le tient encore. Mais il disait que c'était il fallait pas confondre la vague avec c'était quoi son le ressac quoi un peu enfin on, et il disait en fait là c'est juste en fait c'est qu'il y a une il y a en globalement le monde est très progressiste sur toutes ces questions. On le voit avec le fait que les luttes féministes, tu vois, antiracistes, antispécistes, ça prenne de plus en plus de place dans les débats publics. Et face à ça, les dominants se sentent menacés, les dominants et puis les médias qui les accompagnent, enfin, toute cette structure de domination se sent menacée. Et donc, elle réagit avec d'autant plus de vivacité et de violence qu'elle sent que son temps est compté, quoi. Et quelqu'un d'autre me disait ça sur la chasse, justement. Il me disait, mais en fait, les chasseurs sont de plus en plus âgés, il y a de moins en moins de recrues jeunes, etc. Ils savent que c'est un peu des dinosaures qui sont en train de disparaître. Et donc, ils durcissent le discours parce que précisément, ils sentent c'est la fin, quoi. Et j'ai envie d'y croire. Mais c'est ce que je disais à Alain Damasio quand il me disait ça, mais je suis pas sûr de ça, en fait. Je suis pas sûr que ce soit juste le ressac. Et je me demande si c'est pas la vague qui est fasciste. C'est difficile à déterminer. Et puis même si c'était juste le ressac, en fait, il est tellement puissant et tellement violent et à tellement d'endroits différents du monde que va falloir quand même sacrément s'organiser, se prendre soin les uns des autres et puis se donner de la force pour pouvoir résister à ça, quoi. Donc voilà, je nous souhaite bien du courage.
Eh ben merci pour cette réponse et merci pour cette heure passée ensemble.
Merci à vous.
Et merci Marie-Leila aussi. Et on va se quitter avec Nos rêves font des forêts. Donc un deuxième extrait de ton album du même titre.
Ouais, peut-être juste ce que je peux dire avant de l'écouter. L'album, il est en ligne. On peut l'écouter sur Bandcamp. Librement, et puis on peut le télécharger, et c'est aussi possible d'y commander sur Bandcamp les CD ou les vinyles, et puis il y a tout le reste de la discographie dont on supporte Palestine, dont tu parlais tout à l'heure. Voilà.
Super, merci beaucoup.